journal de la mi-journée.
Bonjour, une dizaine de francs en guise d'argent de poche, c'est ce que vous touchez de l'État si vous êtes en EMS en Suisse romande. Trop peu pour certains débutés. On sera à Fribourg avec Mehdi Piquant. Et si vous êtes une femme proche de la retraite, vous travaillerez plus à partir de cette année. Conséquence de la votation sur l'AVS, on fait le point sur les changements qui vous attendent dans un instant. Des fêtes de fin d'année avec pour seule compagnie l'Horizon. Justine Métro et Alan Roura célébreront les 12 coups de minuit en solitaire, comme le veut la règle du Vendée Globe, avec au menu quelques coups de fil à la famille pour garder le cap, mais aussi de la daube de bœuf et du foie gras. Dernier épisode de notre série sur des fêtes particulières. Et vous, ces fêtes de fin d'année, vous les préférez avec ou sans alcool? La sobriété gagne du terrain et les producteurs s'adaptent. Reportage chez les pionniers de la bière artisanale en Suisse romande où désormais une cuve spéciale est dédiée aux boissons 0%. Dans ce journal aussi, le président par intérim en Corée à son tour destitué, les paysages suisses sublimés par les séries télé et puis les hérissons qui tremblent pour leur survie dans notre pays. Les loutres par contre gagnent du terrain. On est ensemble jusqu'à 13h. Bienvenue dans ce journal. Entre 8 et 12 francs par jour, c'est l'argent de poche versé en Suisse romande aux résidents et résidentes en EMS aidés par l'État. Et ce montant varie d'un canton à l'autre. Et à Fribourg, c'est 10 francs par jour. Bonjour Mehdi Piquant.
Bonjour.
On vous retrouve en direct de Fribourg où les députés souhaitent augmenter cette somme. Mais ils se heurtent au Conseil d'État qui vient de s'y opposer.
Oui, on parle des résidents qui ont besoin de l'aide de l'État pour payer leur maison de retraite et qui touchent donc des prestations complémentaires. Dans le calcul, ils ont droit à de l'argent de poche, 320 francs par mois dans le canton de Fribourg, une somme qu'ils utilisent pour s'acheter des nouveaux habits, aller chez le coiffeur ou sortir au restaurant. À Fribourg, ça concerne 7 résidents sur 10 qui n'ont pas vu cet argent de poche bouger depuis plus de 30 ans. Parmi eux, Michel Uldry, 70 ans.
Moi, j'aimerais avoir un peu plus pour pouvoir sortir, parce que moi, je peux sortir tous les jours. Si je vais en ville, c'est cher, ou si prenez un café, c'est presque 5 francs. Là, j'aimerais pouvoir aller faire un restaurant une fois par mois, en tout cas. Mais encore une fois, je peux pas.
Alors, plusieurs députés proposent d'augmenter le montant de 320 à 395 francs, soit 75 francs en plus par mois pour compenser le renchérissement, ce qui ferait au total 2,4 millions supplémentaires à charge du canton. Impensable pour le Conseil d'État fribourgeois dans le contexte financier actuel. Une posture que regrette Sophie Triton, députée du centre-gauche Parti Chrétien Social.
Ça fait peine à voir. Il y a des grands-parents qui sont visités par leurs petits-enfants. Ils n'ont même pas de quoi leur offrir un sirop. Et puis bon, on atteint quelque part à leur capacité à garder le lien avec les autres en les coupant de certains petits plaisirs qui sont partagés en principe.
Le Parlement fribourgeois doit se prononcer sur le sujet en début d'année prochaine. Pas sûr qu'une majorité se dégage pour augmenter le forfait. D'autant que Fribourg, avec ses 320 francs, est plutôt parmi les plus généreux côté roman. À Neuchâtel et dans le Jura, par exemple, ses résidents en EMS ont droit à 250 francs par mois.
Merci Mehdi Piquant, en direct de Fribourg. Et c'est l'un des changements majeurs de l'année à venir. Si vous êtes une femme, votre âge de départ à la retraite va être rehaussé dans quelques jours. Ce ne sera plus 64 ans, mais 64 ans et 3 mois, et ce, dès le 1er janvier, conséquence du choix opéré par le peuple suisse lors de la votation sur l'AVS. On vous retrouve à Berne, Phileas Sautier, et aujourd'hui, ce n'est qu'une première étape.
Oui, parce que le but de cette réforme est d'atteindre le même âge de départ à la retraite que pour les hommes. À terme, ce sera 65 ans pour tout le monde. Mais cette adaptation se fait petit à petit, 3 mois de plus chaque année. Alors, si vous êtes né entre 1961 et 1963, vous êtes concerné par cette phase transitoire. Puis, pour toutes les femmes qui sont nées en 1964 ou après, ce sera 65 ans comme les hommes et donc ce sera dès 2028. C'est ce qu'a décidé le peuple suisse à une très courte majorité il y a un an et demi. Ce mois-ci, le tribunal fédéral a confirmé ce choix. Les Verts avaient déposé un recours suite aux erreurs de calcul dans les prévisions financières de l'assurance vieillesse.
Et alors, Phileas, à part l'âge de départ à la retraite, qu'est-ce que ça va changer?
Alors concrètement, les femmes qui partent à la retraite ces prochaines années recevront également un supplément de rente. C'est une compensation financière de la hausse de cet âge de départ. Ces femmes pourront également, à moyen terme, compter sur une 13e rente AVS, comme tous les retraités d'ailleurs. Mais pour ça, il faudra attendre un peu. Elle sera versée pour la première fois à la fin de l'année 2026.
Phileas Sautier à Berne. Et cette disparition que l'on a apprise ce matin, celle de l'inventeur de la brique Tetra Pak, l'industriel suédois Åke Gustafsson est décédé à son domicile de Châtel-Saint-Denis dans le canton de Fribourg. Il avait 101 ans et il s'était établi en Suisse dans les années 60. Son système d'emballage Tetra Brik est aujourd'hui encore produit par centaines de milliards d'unités à travers le monde. Et pour l'anecdote, le matériau d'emballage de Tetra Pak isole même la maison de Châtel-Saint-Denis où le Suédois a terminé sa vie. Cette question maintenant, qui sont les gagnants et les perdants de la faune sauvage cette année en Suisse? Eh bien, le WWF vient de publier son bilan pour 2024 dans un contexte de recul toujours plus rapide du nombre d'espèces. Et l'ONG tire la sonnette d'alarme, notamment concernant le loup et le hérisson. Il reste cependant une lueur d'espoir puisque cette année a été très positive concernant la réimplantation de la loutre et de la cigogne blanche. Blanche, comme l'explique Pierre Etret, porte-parole du WWF.
Alors la loutre, ça fait depuis pas mal d'années maintenant qu'on voit qu'elle est revenue en Suisse. Elle revient en fait à partir de l'Autriche et de la France. Sa venue et son établissement grâce aux stations d'épuration des eaux et à la revitalisation des cours d'eau, en fait, qui ont une influence bénéfique sur son habitat. Quant à la cigogne, elle avait disparu complètement de notre pays. Et puis, il y a de nombreux bénévoles qui se sont investis pour les réintroduire, d'abord dans le canton de Soleure. Et puis après, il y a eu encore d'autres réintroductions dans d'autres régions. Donc là, heureusement, on a vraiment une très bonne nouvelle.
Donc, il ne faut pas perdre espoir. Quand on accompagne la réintroduction d'une espèce, parfois, c'est gagnant.
Exactement. Il ne faut jamais relâcher ses espoirs, que ce soit par rapport à des réintroductions ou autres. On voit que la nature, elle est résiliente. En fait, il ne faut pas l'oublier. Et dès qu'on prend quelques mesures, dès qu'on donne un petit coup de pouce à certaines espèces, on voit en général vraiment une évolution positive qui suit.
Pierre Etret avec Tania Zaspinard. Et de la faune helvète, on passe au paysage et de ces images véhiculées par le cinéma et les séries, des images de la Suisse sublimées dans la série Winter Palace, diffusée depuis hier sur la RTS et réalisée en collaboration avec le géant Netflix. Un projet ambitieux qui revisite les origines de l'hôtellerie de luxe et des sports d'hiver avec des tournages dans des lieux emblématiques, notamment dans le canton du Valais. Bonjour Tristan Albrecht.
Bonjour madame.
Vous dirigez la Valais Film Commission qui a pour mission de soutenir et accompagner les productions audiovisuelles dans le canton. Alors est-ce qu'une série comme Winter Palace pourrait avoir des retombées économiques pour le Valais, le secteur touristique ?
Alors c'est bien évident qu'un tel projet, l'ampleur du projet apporte une manne financière importante, déjà directement, c'est déjà constaté avec des dépenses qui sont faites pendant le tournage du film sur place. Hein, le tournage a duré 7 semaines quand même en Valais, donc il y a une dépense économique qui est assez importante et on peut déjà l'estimer, elle est même justifiée à hauteur de 1,2 million de francs, simplement en dépenses qui sont non pas liées au tourisme, mais qui sont liées vraiment aux frais de tournage.
Mais ces images, donc, ça pourrait donner envie aussi aux touristes de venir visiter notre pays et notre région, votre région ?
Bon, tout dépend de la manière dont est utilisée l'image. Après, on sait que le film véhicule ces images, véhicule des émotions, véhicule des décors. Et puis après, c'est la stratégie d'un organe de promotion touristique, d'une destination, d'utiliser ces mises images en bonne intelligence, souvent avec les productions, pour faire valoir cet outil comme moyen de promotion. Mais il doit être utilisé pour ça. Donc, c'est un potentiel outil de promotion, oui.
Oui, parce qu'il faut dire, c'est que là, on parle d'une série qui mise sur le côté carte postale de la Suisse. Mais on imagine que certains films ou d'autres séries offrent une image différente du canton. On pense par exemple à la série de Sugar, avec des histoires de policiers corrompus ou de mafia. Là, est-ce que votre commission peut tenter d'insuffler du positif dans ces tournages ?
Tout à fait, parce que tout tournage, toute histoire a un potentiel possible. Alors on est habitué en Valais, bien évidemment, avec nos décors à des histoires qui sont plus proches de la montagne, telles que Winterpalace, qui mettent, c'est clair, des images époustouflantes du canton, des paysages fabuleux. Mais vous avez évoqué Tschuker, qui est une histoire qui n'est pas tout à fait du même acabit, mais pourtant qui a un gros succès. C'est toujours la manière de mettre en avant les choses. Et pour notre commission, en tous les cas pour la Valais Film Commission, c'est très important de ne pas se cantonner à un seul type d'histoire, un seul type de décor, mais de sortir un petit peu des sens qui est battu et de proposer aussi autre chose. Et ça, c'est très important parce que ça permet aussi aux Valais de se positionner sous un autre angle avec de nouvelles histoires et un nouveau point de vue, aussi du point de vue touristique.
Et pour vous, quel serait le lieu qui offrirait un meilleur décor de cinéma dans votre canton ?
Je pense que je vais vous donner exactement la même réponse. Et s'il n'y a pas un décor en particulier, je pense que le plus beau décor, c'est celui qui se lie le mieux avec l'histoire qui est racontée. Donc on peut très bien avoir un barrage. On a eu le film Laissez-moi qui a été tourné ici à la Lixence, qui magnifie une super structure, qui n'est pas forcément belle en soi. Puis on peut avoir une très belle montagne. C'est aussi la tradition, reste la tradition. Mais il peut y aussi avoir, vous avez évoqué Tschuker, Chavalon, qui est une usine désaffectée, et puis voilà, qui met en valeur un décor en rapport avec son histoire. Et c'est ça le plus important.
Merci Tristan Albrecht, directeur de la Valais Film Commission. Bonne journée du côté du Valais.
Merci, merci, bonne journée, au revoir.
On ouvre maintenant une page internationale avec d'abord Mayotte. Le Premier ministre français François Bayrou se rendra sur place dimanche et lundi. C'est ce qu'a indiqué l'Élysée hier. Et pour l'accompagner, plusieurs membres du gouvernement, dont Elisabeth Borne en charge de l'éducation ou Manuel Valls en charge des Outre-mer. Une visite tardive mais en grande pompe dans un contexte de détresse et de colère. Ariane Hasler.
Oui, pas assez d'aide et pas partout. Voilà ce que disent les Mahorais. Il y a deux jours, des élus locaux ont dénoncé l'écart entre les annonces de l'État et le manque d'aide sur place. Hier, c'est un sénateur Mahorais qui a demandé une commission d'enquête pour savoir exactement comment la catastrophe a été gérée. 13 jours après le passage du cyclone, les distributions d'eau, de nourriture, la remise en place du réseau électrique et routier, les soins des blessés, tout est encore très compliqué. Et si, juste après la catastrophe, les dons ont afflué, 23 millions d'euros par exemple pour la Fondation de France, eh bien l'aide peine à se concrétiser.
Et Ariane, aujourd'hui, les ONG se disent inquiètes également.
Où il y a énormément de personnes qui ont besoin d'aide en même temps. C'est ce qu'explique la Croix-Rouge française. Une aide qui arrive essentiellement de métropole à 8000 km de là et de la Réunion à 1500 km, ce qui ne simplifie évidemment pas les choses. Emmanuel Macron avait été chahuté à Mayotte lors de son passage quelques jours après la catastrophe. La délégation gouvernementale conduite par François Bayrou sera certainement, elle aussi, prise à partie dimanche.
Ariane Hasler, merci. Vous étiez en direct de Paris. En bref, un soldat nord-coréen capturé vivant par l'Ukraine, c'est une première dans l'histoire du conflit. On apprend ce matin qu'il a succombé à ses blessures et selon Kiev, 12 000 hommes armés nord-coréens sont engagés dans la région russe de Koursk. Et en Corée du Sud, en plein chaos politique, le Parlement vient de voter ce matin la majorité pour destituer son président par intérim. Ce vote intervient seulement deux semaines après avoir démis de ses fonctions le président Yoon Suk-yeol pour avoir tenté d'instaurer la loi martiale. Une situation inédite dans l'histoire politique du pays. Écoutez le récit de notre correspondant dans la région, Jules Bois.
Pour la deuxième fois ce mois-ci, le Parlement sud-coréen vient de voter pour le départ de son chef de l'État. Les députés de l'opposition reprochaient au président par intérim Han Duck-soo de bloquer la procédure de destitution en cours du président conservateur Yoon Suk-yeol. Pour résumer cette procédure, après le vote du Parlement le 14 décembre dernier, c'est à la Cour constitutionnelle que revient la décision finale de valider ou non sa destitution. Problème, la Cour n'est pas au complet. Trois sièges sont actuellement vacants et le nouveau président par intérim refusait de les pourvoir. Un total de 192 députés sur 300 ont donc voté en faveur de son départ aujourd'hui, sous les protestations des membres du Parti conservateur. Ils contestent notamment le nombre de votes requis pour cette seconde destitution. parce que Han Duck-soo assurait jusqu'ici la double casquette de président par intérim et de premier ministre, il a été destitué en tant que premier ministre. Ce vote ne nécessite qu'une majorité simple contre les deux tiers du Parlement s'il avait été considéré comme un président. Han Duck-soo a affirmé cependant qu'il respectait la décision de l'Assemblée nationale et que tout comme l'ancien président, il attendrait la décision de la Cour constitutionnelle. En attendant, c'est le ministre des Finances Choi Sang-mo qui assurera le rôle de président par intérim. Jules Bois, RTS, Taipei.
Moi, je suis un peu tout seul sur mon bateau, mais bon, c'est comme ça. On m'a pas forcé, je l'ai choisi.
On essaie de faire un repas staff un peu plus spécial.
Vous avez un petit foie gras qui traîne aussi, j'ai du pain, donc non, ça va être parfait.
On peut pas boire d'alcool dans l'espace et surtout pas de champagne.
Et on trinque un coup ensemble et on se souhaite joyeux Noël.
La saison des fêtes rime souvent avec famille et amis, mais pas pour tout le monde. Il et elle sont seuls sur leur bateau, au milieu des océans, en train de réaliser un tour du monde à la voile et en solitaire. Alors on embarque dans ce 12-30 avec les marins du Vendée Globe qui vivent des fêtes de fin d'année un peu particulières, avec au menu de l'eau salée, du vent et des vagues, mais pas que. Un sujet signé Grégoire Perroux.
Père Noël, s'il y a un jour où tu peux bien me donner un peu de vent là.
Ho ho ho, here we go. It's Christmas Day.
C'est le 24, mais on sait pas trop quelle heure on est exactement ici, à quelle heure il faut le fêter.
Des chapeaux de Père Noël, des décorations, des pulls de Noël, les navigateurs du Vendée Globe ont redoublé d'originalité pour fêter dignement le réveillon et le 25 décembre. Désormais, le cap est mis en direction du nouvel an, même si la réalité, elle, ne change pas. Ils sont bel et bien seuls sur leur bateau au milieu des océans et ça reste un moment particulier pour celles et ceux qui sont partis il y a 47 jours des Sables d'Olonne en France pour un tour du monde en solitaire. Le Genevois Alan Roura redoutait un peu il y a quelques jours ces fêtes de fin d'année.
Bah tout le monde va être en famille et que bah voilà, moi je suis un peu tout seul sur mon bateau, mais bon c'est comme ça, hein, on m'a pas forcé, je l'ai choisi, mais c'est vrai que ça fait bizarre. Donc voilà, pour le moment, j'y pense pas trop, mais je sens que ça approche vite tout ça.
Seul sur la mer et sur terre aussi, il y a une chaise qui reste vide autour de la table, avec des enfants qui posent parfois des questions. Aurélia Roura Moureau, l'épouse d'Alan Roura.
C'est vrai que notre fille aînée a 4 ans et demi maintenant, donc elle se rend bien compte que son papa n'est pas là. Mais on l'avait préparé et puis finalement, elle sait que à Noël, il ne sera pas là et il sera là après le premier anniversaire de son petit frère. Donc ça permet quand même un peu de séquencer un petit peu aussi ce temps long qui est difficilement compréhensible pour les enfants. Donc c'est particulier, mais finalement, moi, c'est mon 3e Noël sans Alan. Donc ça fait partie de nos habitudes tous les 4 ans, c'est qu'il n'est pas là.
Grâce à des appels vidéo, les marins peuvent tout de même partager un petit moment avec leur famille entre deux changements de voile ou de direction. Et il y a aussi des cadeaux qui ont été cachés par les proches, la genevoise Justine Métro.
J'en ai trouvé à différents endroits, surtout dans les sacs d'avitaillement. Mais voilà, il y avait des petites choses qui étaient spécialement notées à garder pour Noël, donc je les ai mises de côté. Mais en attendant, j'avais un calendrier de l'Avent, j'avais tout plein de petites surprises quasiment tous les jours dans mes sacs d'avitaillement. Donc voilà, j'ai pas été en reste au niveau des cadeaux.
Et la patience, ce n'est pas donné à tout le monde. Alan Roura.
J'ai craqué, je suis en train d'ouvrir les cadeaux. Mais je sais pas quelle heure il est ailleurs, alors je crois qu'en Nouvelle-Zélande, il est 12 heures de plus. Alors c'est que déjà on est le 25.
Des fêtes de fin d'année en solitaire qui n'empêchent pas les marins de se faire plaisir, notamment à l'heure du repas.
Ouais, j'ai une petite daube de bœuf avec un peu de pâte, une petite bouteille de vin rouge. Donc non, je vais me mettre bien. Il doit y avoir un petit foie gras qui traîne aussi. J'ai du pain, donc non, ça va être parfait. Quand même, c'est Noël.
Mais pour pouvoir profiter des fêtes de fin d'année sur l'eau, il faut aussi avoir une bonne météo. Pendant que certains se démènent dans des conditions dantesques et n'ont même pas le temps de réaliser que c'est Noël ou le 31 décembre, d'autres patientent en attendant le vent et ont même le temps d'apprendre à faire de la musique, à l'image du français Tanguy Le Turquet.
Et c'est donc en mer avec ce sujet signé Grégoire Perroux que se termine notre série spéciale du 12-30. Vous pouvez retrouver l'intégralité des épisodes sur notre site rts.ch. Et selon le dernier classement établi ce matin à 11h, Justine Métro est 10e de ce Vendée Globe, Alan Roura 20e et Olivier R est actuellement à la 31e place. Encore un mot de sport et du hockey sur glace avec la coupe Philippe Spengler et un mauvais début pour les équipes suisses. Jérôme Jeannin, Fribourg-Gotteron et Davos ont tous deux perdu leur premier match hier. Il va donc falloir réagir aujourd'hui.
Oui, ce sera dès cet après-midi pour Fribourg-Gotteron, battu au tir au but par Pardubitzel. Les Fribourgeois affrontent l'équipe finlandaise de Kärpät-Oulu. Elle aussi à la peine dans son championnat. Ce sera donc une bonne occasion de se relancer pour Gotteron, qui a mis du temps à entrer dans le tournoi, mais qui a affiché des intentions intéressantes sur la fin du match. Pour Davos, la soirée a carrément viré au cauchemar. Les Grisons ont été battus sèchement par le Team Canada 6-2. La machine grisonne est grippée, clairement, depuis 10 jours, puisque Davos vient d'enchaîner 5 défaites de suite.
Et Jérôme, toujours au chapitre des sports, cette chute ce matin à l'entraînement ski alpin.
Oui, c'est à Bormio. Cyprien Sarrazin a été victime d'une lourde chute lors du second entraînement avant la descente de demain. Descente de Bormio qu'il avait remportée il y a tout juste une année. Le Français a perdu le contrôle de ses skis. Il a violemment rebondi sur la piste avant de terminer sa course dans les filets de protection. Aucune information n'est encore disponible sur son état de santé.
Jérôme Jeannin, merci. Cet après-midi, vous pourrez suivre donc le match de Fribourg-Gotteron juste après 15h en images sur RTS2.
Le 12-30, Sophie Islin.
Le flacon, mais sans l'ivresse, les alternatives à l'alcool séduisent de plus en plus. Vous en avez peut-être testé en cette période de fête. On verra l'exemple des bières dans un instant. Dans un reportage, les mousses sans alcool représentent désormais 7% des parts de marché au niveau des bières. Mais on peut citer aussi les cocktails ou le vin sans alcool. On décrypte tout ça avec Fanny Paris, anthropologue spécialiste de la consommation à l'Université de Lausanne. Elle était l'invitée du 12-30 il y a quelques semaines, interrogée par mon collègue Guillaume Rey. Avec cette première question, est-ce qu'on peut vraiment parler d'une tendance ?
Effectivement, c'est même plus qu'une tendance, c'est une nouvelle pratique qui est en train de s'intégrer et de se diffuser de manière de plus en plus durable au sein de l'habitude des consommateurs.
Alors cette nouvelle pratique, il y a plusieurs facteurs qui peuvent l'expliquer, on va les évoquer. Mais peut-être un élément déjà, c'est que les vins ou les bières sans alcool se rapprochent de plus en plus du produit alcoolisé. Les techniques de production ont bien évolué ?
Effectivement, ces produits ne sont pas nouveaux. Par ailleurs, les évolutions technologiques ont pu faire de cette invention proposer des boissons sans alcool au profil des boissons alcoolisées est devenue une innovation dans la mesure où aujourd'hui l'expérience organoleptique va se rapprocher de plus en plus de la boisson, on va dire, originale, entre guillemets.
Alors Fanny Paris, on va continuer à parler avec vous de cet essor des boissons sans alcool, mais je vous propose de découvrir un exemple, la bière. On boit toujours plus de bière sans alcool, sa production a bondi de 12%. Alors les brasseurs s'adaptent à l'image de Dr Gabs à Puydoux dans le canton de Vaud. Dominique Chauffas est rendu sur place pour Ici la Suisse.
Ben voilà, c'est ici qu'on a les bouteilles qui se remplissent, donc elles sont rincées, ensuite mises sous pression et remplies avec la bière et capsulées droit derrière.
Reto Engler est directeur de production et cofondateur de la brasserie Dr Gabs. Il regarde surtout le verre de bière sans alcool à moitié plein, même si ça représente des coûts supplémentaires pour son entreprise.
Il y a une cuve dédiée, on a un système pour pasteuriser la bière sans alcool, donc il y a déjà des investissements de base qui doivent être faits. Maintenant, oui, pour nous c'est intéressant, ça nous permet d'avoir un nouveau segment de marché et puis une offre aussi plus diversifiée.
On va s'approcher des cuves de brassage maintenant pour absorber tous leurs secrets de fabrication.
Je m'appelle Antoine Lhomme et je suis brasseur chez Dr Gabs.
C'est donc la première étape, le brassage, et ça fonctionne de la même manière quel que soit le type de bière produite.
Donc il y a une première partie ici où ça sera la cuve d'empattage où on va plutôt tirer les sucres qui vont nous servir à produire de l'alcool derrière. Une fois qu'on a tiré ces sucres-là, on va envoyer en cuve de filtration qui est juste un peu plus loin, où là on va séparer le mou du solide en fait, des restants de malt. On va porter tout ça à ébullition, où on va mettre les houblons pour le côté amer ou un petit peu plus aromatique. Et une fois qu'on a fait cette ébullition, on va concentrer tous les sédiments et rajouter des houblons pour avoir un peu plus d'arôme encore.
On voit la bière qui tourne en fait.
Exactement, donc ça c'est là où on va extraire les sucres, c'est la cuve d'empattage.
Avec de la mousse au-dessus.
Donc là, ça veut dire que tout se passe bien, ça se mélange bien.
La spécificité d'une bière non alcoolisée, c'est d'utiliser des levures qui ne transforment pas les sucres en alcool. Son mou est donc plus sucré et il lui faut une cuve spécifique dédiée pour la fermentation.
la cuve qui est prédestinée à la bière sans alcool qui est juste là. Là, on a à peu près pour les bières, disons classiques, une semaine de fermentation principale et après on va avoir 2 à 3 semaines de garde pour affiner les bières et puis après elles seront prêtes à être dégustées.
Et puis pour la bière sans alcool, c'est plus compliqué, c'est plus long ?
Alors non, c'est plus rapide. Une semaine à peu près, une semaine et demie, on est à peu près prêt pour envoyer une bière sans alcool. Ça va être plus rapide.
Voilà, ici c'est l'étiqueteuse. On a les bouteilles qui sortent ici avec l'étiquette, la date de consommation qui est encore imprimée dessus avec le numéro de l'eau.
Les charges ont augmenté ces dernières années, le prix des matières premières aussi, et le marché se restructure avec de nombreux rachats. Les indépendants qui veulent le rester doivent donc se montrer créatifs. Dr Gabs est d'ailleurs en plein test pour lancer une deuxième bière sans alcool, Reto Engler.
La bière, c'est effectivement une industrie de volume hein, avec des petites marges, donc il faut réussir à avoir un seuil de rentabilité. Maintenant, je dirais que de notre côté, c'est surtout l'agilité, le fait de remettre les choses en question. Nous, la première bière sans alcool, la placebo, on l'a lancée en 2021, donc basée sur une bière plutôt houblonnée. Et maintenant, on voit qu'il y a la place pour mettre une deuxième référence sans alcool. Et on travaille dessus pour l'année prochaine, pour l'été 2025.
Là où on ferme les cartons et on fait la palettisation à la main. Et à côté de ça, vous voyez la machine qui est là pour nettoyer et remplir les fûts.
Voilà pour ce reportage de Dominique Chauffat. Fanny Paris, anthropologue, spécialiste de la consommation. On entend ce brasseur qui s'adapte à la production de bières sans alcool. Si les brasseries s'y mettent, c'est forcément qu'il y a un marché. La production de bières sans alcool progresse, on l'a dit. Ça peut aller jusqu'où ?
Alors, ça ne va pas aller jusqu'à un remplacement total du marché existant. Par contre, on va voir apparaître une généralisation des alternatives, à la fois alcoolisées et non alcoolisées. Cette démocratisation, elle s'inscrit et elle s'insère dans d'autres tendances de société qui s'inscrivent également de manière durable, comme la montée des préoccupations via une alimentation plus saine, orientée santé, qui va permettre de valoriser cette typologie de produits sans par ailleurs modifier les pratiques de convivialité ou les habitudes de table.
C'est vrai qu'on dit souvent que le vin, la bière, c'est ancré dans une certaine culture. Ça veut dire qu'il y a un changement culturel qui est en train de s'opérer. Le sans-alcool, finalement, c'est un indice de ce changement sociétal, culturel.
C'est un des miroirs des transformations actuelles autour de la consommation. Et ce qui est intéressant avec cet exemple-là, c'est que ce n'est pas les pratiques de table ou le rapport à l'alcool et à la convivialité qui vont changer. C'est plus le contenu de notre consommation qui, elle, s'adapte à l'ère du temps sans pour autant bouleverser l'ordre social ou nos habitudes auxquelles on tient généralement beaucoup.
Et puis, j'imagine que les modes de consommation varient aussi selon les régions, les habitudes culturelles varient aussi. Notre rapport à ces boissons sans alcool va aussi varier ?
Les études qu'on a pu mener à ce sujet montrent que plus le contexte va être cosmopolite, plus cette typologie de boisson va être acceptée parce qu'elle va permettre à des individus qui vont avoir des interdits ou des restrictions de régime alimentaire pour des raisons autant religieuses que de santé, de se mettre tous autour d'une table avec une boisson qui en apparence sera la même. À l'inverse, plus on va être dans un territoire qui va être ancré dans la culture de la ville, dans une perspective de consommation plus traditionnelle, plus on va observer des réticences à l'intégration de ce type de boisson dans leur quotidien ou à leur table, parce que ça va être perçu comme une forme de récupération culturelle par d'autres types de populations et de buveurs qui ne leur envoient pas forcément une image qui est en cohérence avec leurs propres habitudes de consommation.
Fanny Paris, anthropologue spécialiste de la consommation, on parle avec vous de l'essor des boissons sans alcool. On entendait dans le reportage un brasseur qui s'adapte à la production de bières sans alcool. Ça veut aussi dire que ces métiers-là vont évoluer. On parle du vin, de la bière. Les métiers qui les entourent vont changer ?
Effectivement, parce qu'on se rend compte que du point de vue de la production, ça nécessite un certain nombre de changements. Et ensuite, vu qu'ils vont pouvoir adresser un nouveau segment de marché, ces professionnels vont devoir s'habituer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est plus sur une évolution qu'une transformation pour que leurs produits et leur production restent au cœur de la vie des gens.
Une dernière question, Fanny Paris. On approche de Nouvel An, l'occasion peut-être d'une coupe de champagne pour fêter ça. On donne parfois du champagne sans alcool à nos enfants à ces occasions. Il peut y avoir une forme de risque quand même dans ce cas. Le sans alcool peut être une sorte de porte d'entrée vers l'alcool.
Effectivement, ce n'est pas parce qu'un produit est théoriquement accessible à la consommation qu'il doit par ailleurs être consommé pour autant. Le fait d'acculturer des enfants à des boissons et à une gestuelle qui se rapproche et qui va presque tromper l'esprit, c'est un risque d'acculturer dès le plus jeune âge et de normaliser des pratiques par la suite excessives de ce type de boisson. Donc, ce n'est pas forcément hyper conseillé de donner un verre de champagne non alcoolisé à ses enfants.
L'essor des boissons sans alcool avec Fanny Paris en nouvelle diffusion.
La vie à peu près, Agnès Léveillé.
Se confronter aux forces et les mettre en tension, cette semaine, nous découvrons les sculptures et les structures de la plasticienne Carmen Perrin. Soyez les bienvenus. 2019, Glacier du Rhône. Des bâches textiles, grisâtres, déchiquetées par les intempéries, recouvrent le glacier. Un peu plus bas, ces couvertures un peu moins abîmées voilent la grotte glaciaire, une attraction touristique très prisée dans la région. Carmen Perrin est alors en résidence, invitée par l'Institut Fourcablic. Frappée par cette tentative de freiner, de ralentir la fonte des glaciers à des fins d'exploitation commerciale du site, elle écrit alors un texte intitulé « Là où ça se plie ». Ce sera le début de « Regarder le glacier s'en aller », une série d'éditions d'art qui se transformera ensuite en un vaste projet multidisciplinaire national porté par de nombreux musées, des centres culturels et des artistes. « Regarder le glacier s'en aller », c'est le cinquième épisode de « La vie à peu près » de Carmen Perrin, une série proposée cette semaine par Florence Grivel dans la réalisation signée Sacha Anger.
Bonjour Carmen Perrin.
Bonjour Florence Grivel.
En ouvrant quelques-uns des nombreux chapitres de votre vie à peu près, on sent que tous les moments de votre vie sont très déterminants. Lorsqu'on arrive à votre âge, vous avez 71 ans, on peut dire ça aujourd'hui, vous avez eu une grande rétrospective l'année dernière au MAMCO à Genève. Quel regard vous portez sur la femme que vous étiez, la jeune femme que vous étiez, la jeune artiste que vous étiez dans les années 80 et celle que vous êtes devenue aujourd'hui? Est-ce que vous auriez envie de lui dire quelque chose à cette toute jeune Carmen Perrin?
Moi, ça me fait penser à une rencontre que j'ai faite au début des années 80 avec Meret Oppenheim.
Rencontre avec Meret Oppenheim?
Oui.
Eh bien, dis donc, un grand artiste suisse.
Ouais, j'ai eu beaucoup de chance. En fait, j'ai été invitée par Adelina von Fürstenberg pour participer à l'exposition qui s'appelait Promenade dans un parc à Gento. Et j'avais un emplacement et j'ai commencé à construire ma sculpture en métal, en serre-joint et en ardoise. Et puis, Meret Oppenheim, elle était pas loin de là, au bord d'un petit ruisseau, et elle fabriquait un radeau. Et puis, voilà, les artistes travaillaient chacun dans leurs endroits. Et puis, à un moment donné, je me suis approchée d'elle quand j'ai terminé et elle m'a dit « Il est très joli, votre hanneton. » Et « Ah ouais, c'est un hanneton !» Alors, ouais, c'était beau de voir qu'elle voyait l'insecte. Alors que moi, j'avais construit des tensions avec des plaques de métal, des serre-joints dont j'avais laissé la poignée rouge et des ardoises. Et en fait, j'avais eu l'impression d'installer une espèce de machine au milieu de la végétation, une espèce de machine qui était un peu une évocation entre un animal préhistorique et puis un animal, un insecte, pas du tout pensé au hanneton, mais à tous les insectes. Et puis, j'avais pensé à la couleur, parce que je lisais à ce moment-là Gilles Deleuze, Mille plateaux, et il y avait tout un chapitre sur l'importance de la couleur dans le devenir animal et dans les liens entre les animaux pour le rut, hein, pour pour se protéger, ou ils se la parade, se colorer, disparaître, devenir imperceptible, tout ça. Et je m'étais raconté toutes ces histoires et tac, elle me dit, mais il est très joli votre hanneton. Et très vite, elle me dit, je vous ai regardé travailler et vous pouvez travailler comme vous travaillez aujourd'hui, mais faut faire attention à votre santé. Vous pourrez pas travailler longtemps comme ça, sans aide. Parce que la santé, c'est important pour un artiste. Sans la santé, on peut plus travailler. Et là, vous faites pas attention à vos forces physiques. Vous dépassez vos limites. Elle m'a fait la morale un peu.
Mais doyenne de l'art.
Mais gentille.
Génial, génial.
Ah non, mais c'était incroyable. Et voilà. Puis on a continué un petit peu la conversation, puis on s'est séparés.
Et donc, ce conseil, vous l'avez métabolisé?
C'est-à-dire que, en gros, elle m'a dit qu'il fallait que je gère mon énergie, parce que j'en avais beaucoup. Et peut-être pas trop, mais je pense qu'on n'a jamais trop d'énergie. Mais bon, il faut savoir un peu la
conduire. Ouais. Ouais.
Et j'ai jamais oublié cette conversation, parce qu'elle est toujours restée dans ma tête comme une petite lumière qui s'allume de temps en temps. Ou tout d'un coup, ok, je suis toute seule, maman, je le fais quand même. Et je prends des risques. Et parfois, je me suis fait très mal. Et ouais, voilà, ça c'est une chose que j'oublie jamais. Toujours à mon âge aujourd'hui, fais gaffe. Tu pourras plus bosser. Fais gaffe.
Je crois que c'est bien. Moi, ce que j'aime bien dans cette histoire aussi, Carmen Perrin, c'est qu'on a Meret Oppenheim, qui est cette artiste qui a beaucoup été dans la veine du surréalisme, en créant son fameux... déjeuner en fourrure, donc une tasse,
magnifique, magnifique.
Qui sont en fourrure tout simplement. Donc,
ou sa table avec la pâte de poule.
Oui, absolument. On est vraiment dans un univers aussi d'associations libres, très figuratives. Et je trouve drôle qu'elle voit dans votre travail quelque chose de figuratif, alors que vous, justement, c'est pas votre truc, la figuration. Par contre, vous aimez qu'il se passe quelque chose au niveau des tensions, justement.
Voilà.
C'est pas du tout la même chose.
Moi, ce que j'aime, c'est qu'il se passe quelque chose par rapport à la narration. Parce que j'évoque toujours quelque chose de la vie concrète. Mais ce qui m'intéresse, c'est d'arriver à la narration à travers uniquement des rapports de force. Et le matériau, il est bien pour ça. Parce qu'il reste abstrait. Ça reste juste une sensation.
C'est
pas du
bavard.
Tout une illustration. Voilà,
c'est ça. C'est ça. La narration... qui est propulsé par ce que vous faites vivre à des matériaux. Ça, on vient de l'entendre, Carmen Perrin. Mais en même temps, vous avez quand même des titres qui sont, alors pour le coup, assez figuratifs, entre l'onomatopée, tic-tac-toc, viens voir, Narcisse, Liseron, l'épaisseur d'un motif, espace éponge, Paris match, derrière un loup, il y a un loup, écoute la rumeur d'un buisson. Enfin, il y a vraiment, là, il y a beaucoup, beaucoup d'images possibles. Comment vous trouvez les titres de vos travaux?
Alors d'abord, j'ai décidé d'en mettre parce qu'au début, j'en mettais jamais. C'était toujours sans titre. Parce que ça m'intéressait pas du tout, les titres. Parce que ça allait de nouveau diriger l'interprétation. Et puis ça, l'œuvre commence tout d'un coup à illustrer le titre. Mais au bout d'une dizaine d'années, quinzaine d'années, peut-être plus, je me suis rendu compte que le sans titre laissait flotter l'œuvre dans une espèce de flou, de flottement, comme ça, qui ne disait rien de ce qui m'avait incité à la faire, qui ne disait rien de l'histoire qui se nouait entre cette œuvre et moi. Alors, j'ai commencé à mettre des titres, mais la règle, c'était de trouver ces titres très vite. Pas du tout de réfléchir longtemps, parce que là, c'est la catastrophe. Tous ces titres, je les ai trouvés très vite. C'est spontané. C'est des choses comme des... C'est comme
des fulgurances, en fait.
Ouais, c'est des fulgurances. C'est des improvisations face à l'œuvre. Et il faut que l'œuvre soit terminée. Elle est terminée, et qu'est-ce qui se passe? Un matin, j'arrive, je la regarde, et tac, il y a un truc qui vient, je note. Et j'en note une vingtaine, trentaine, et j'en garde un à la fin. Voilà.
Est-ce que l'inspiration, est-ce que la page blanche, ça existe chez vous? J'ai l'impression que vous êtes toujours en activité, qu'il n'y a pas de traversée du désert, d'inspiration. Il y a eu des moments de panne créative?
Moi, je pense que tous les artistes, ils traversent des pannes créatives. Oui, j'en ai eu. Mais ce qui m'a beaucoup aidé à, par exemple, j'ai eu des moments dans l'atelier où je me disais, mais tu commences à répéter. Et je n'avais plus de désir de reprendre les mêmes outils pour continuer à faire ce que je connaissais déjà. Donc, je faisais pas. Ou, j'ai souvent détruit. Et je me rappelle que mon déménagement de Marseille à la Bourgogne, par exemple, a été un moment extraordinaire parce que j'avais beaucoup de pièces, donc de sculptures, hein, qui étaient dans l'atelier, mais j'avais aucune envie de payer très cher en transport. Et puis transporter pourquoi ? Des œuvres qui ont été faites là, dans ce lieu, pour cette lumière ridicule. Et du coup, je les ai toutes démontées. J'ai vécu un week-end, c'était un long week-end du vendredi au lundi, fantastique, où j'ai démonté systématiquement toutes les... Et j'ai mis ensemble toutes les tiges de fer, toutes les plaques de caoutchouc, toutes les vis, tout ça. Et j'ai mis devant la porte de l'atelier, hein, comme un magasin fermé. Mais
une mercerie, ouais.
Ouais, une mercerie, mais ouverte à la rue. Et du vendredi au lundi, tout a été pris. Et de temps en temps, j'allais à la fenêtre, je me rappelle. Et je voyais les gens prendre.
À disposition, donc, génial.
Oui, hein. Oui, incroyable. Et il a dû me rester peut-être 3 pinces et 2 vis, hein, mais tout a été pris. Le bois aussi, les tiges de bois, tout ça. J'ai beaucoup aimé faire ça. C'était pas du tout triste, ni... C'était une magnifique manière de faire le deuil de Marseille, des pièces que j'ai fait là-bas, de l'expérience que j'ai eue là-bas. Et puis, d'arriver ailleurs, tabula rasa.
Waouh. Alors, tabula rasa, pas tout à fait Carmen Perrin, parce que là, je vous propose qu'on aille dans la montagne. Dans le premier épisode, vous parliez de ces premières images de la Suisse quand vous arrivez de Bolivie. C'est le Léman et c'est le Salève. Et très tôt dans votre travail, le monde minéral intervient, je pense notamment en 1991, avec Une pierre s'enfonce dans la glace. Un travail que vous faites in situ, presque du... C'est pas du land art, hein, mais disons, on est quand même, y a quand même l'idée qu'on est sur place. Vous travaillez avec le contexte, c'est pas le contexte bâti, mais naturel. Et puis en 2019, vous faites une résidence à Fourcablique, dans les Alpes. Et c'est là, dans cette résidence, que vous allez, je crois, écrire, et notamment écrire cette phrase qui inspire le projet, un grand projet qui a lieu cette année un peu partout en Suisse, et qui s'appelle « Regarder le glacier s'en aller ». Est-ce que vous pourriez nous en dire quelque chose ? Peut-être un peu de ce rapport aux Alpes, ce rapport à ce monde minéral, ce rapport au glacier, et si ce titre, c'est quelque chose aussi de... Enfin, qu'est-ce que ça raconte ? Est-ce que ça veut dire qu'on reste passif ? Ou alors, non, on dirait que non. Hein. Vous dites non de la tête. La parole est à vous, Carmen Perrin.
Alors, moi, je dirais que... Pourquoi j'ai... Un jour, Benoît Anty, curateur valaisan, m'appelle pour m'inviter à cette résidence artistique à l'Institut Fourcablique. J'ai immédiatement accepté en me souvenant du travail que j'ai réalisé dans la forêt de Morchard, entre Morchard et Brunon, et où j'ai nettoyé des blocs erratiques qui avaient été transportés 20 000 ans avant par le glacier de la Reuse. Là, cette première expérience liée à un glacier, elle m'a beaucoup touchée. C'est pour ça que mon texte s'appelle « Une pierre noire s'enfonce dans la glace ». C'est que ce qui m'intéresse, c'est le mouvement. C'est les mouvements qui ont lieu dans les mises en relation entre les matériaux, la lumière, la chaleur, et comment tout le paysage qui constitue tous nos pays se forme par uniquement ses forces. Voilà. Quand j'ai terminé de réaliser ce travail avec les blocs erratiques, j'étais avec mes étudiants, on avait nettoyé tous ces blocs et tout, et passe le vernissage de la manifestation. Le samedi, on est parti pour assister au vernissage de la pièce de Marie Mertz à Fourcart. Et à ce moment-là, à Fourcart, c'était plus de 2000 mètres d'altitude. Ouais. Et c'est un ancien hôtel que Daniel Stettler avait racheté et qu'il avait transformé en résidence pour artistes dans les années 80. Et il y a eu Richard Long, toutes les stars du Land Art, de l'Arte Povera, de l'art suisse. Et donc on y va et on rencontre Mario Merz. Et puis le lendemain, on est allé voir le glacier du Rhône, qui était pas loin, parce que j'avais envie de voir un autre glacier. Et cette première rencontre avec le glacier du Rhône, j'en ai gardé un souvenir mais lumineux. Il faisait un temps magnifique. Le glacier était en pleine forme. Le paysage était mais vraiment à couper de souffle. Et je suis restée longtemps à faire des photos, à marcher sur la glace. Et puis voilà. Et quand en 2019 arrive cette invitation, il y a tout ça qui est remonté. Et je me suis dit, chic, j'y vais, on verra bien. Et quand je suis arrivée, Janice Ozoline, qui m'a très bien accueillie, m'a dit, écoute, c'est une petite bourse, hein, tu es nourrie, logée, blanchie. Il n'y a pas d'argent pour produire une œuvre, mais tu as carte blanche. Voilà, tu as les 3 mois de l'été devant toi, tu fais ce que tu veux. Et ok, alors ben, j'ai commencé par lire, j'ai commencé à prendre mes notes, des notes par rapport à des lectures. Je lisais Philippe Descola. Et puis Bruno Latour, et puis j'essayais de réfléchir sur ce qui nous arrive avec
l'Anthropocène,
ouais, la catastrophe. Ouais. Et puis un jour, j'ai vu que Janice avait mis dans le restaurant que Rem Koolhaas a construit.
Grand architecte aussi, international.
Dans l'hôtel, une carte. Et c'est en fait une carte dans laquelle est délimitée la Fourcazone, que Janice appelait la Fourcazone, où sont toutes les œuvres qui ont été réalisées jusqu'à la fin des années, début des années 2000, depuis les années 80, par des artistes. Et j'ai vu que le bord de cette zone, de cette Fourcazone, elle touchait le glacier du Rhône. Et je me suis dit, je vais aller le voir d'abord, le revoir. Et puis j'y suis allée, donc on peut aller à pied, c'est quelques heures. Et puis quand je suis arrivée, j'ai passé plutôt par le dessus, où j'étais déjà passée en 91. Et où on le voit très bien. Et puis, j'ai évidemment constaté qu'il était très amaigri. Et je suis descendue de le voir de plus près. Je me suis rapprochée, j'ai passé tout ce système qui est lié à la grotte glaciaire, où on doit passer un kiosque, payer 9 francs, suivre le chemin qui nous amène à la grotte, etc. Et puis, j'étais curieuse aussi de voir comment fonctionnaient ces bâches qui sont à l'extrémité du glacier.
Et qui recouvrent le glacier pour protéger en fait la glace.
En fait, elles ne recouvrent pas le glacier là, elles sont juste à l'extrémité de sa langue. Et en 2019, elles étaient encore assez en forme, en bon état, pour qu'on puisse penser qu'elles servaient encore à expérimenter le ralentissement de la fonte. Mais en s'approchant, j'ai quand même vu que les bâches qui semblaient les plus nouvelles étaient autour de la grotte et que plus on s'éloignait et plus les bâches étaient sales, étaient laissées telles quelles. Et ça m'a quand même intriguée. Je suis rentrée à l'institut et Janice Ozoline m'a dit « Alors, comment c'était au bidonville ? T'es encore allée boire le bidonville ?» Et puis bon, je suis rentrée avec ça, j'ai continué à lire, j'ai commencé à prendre des notes sur ces visites, ces premières visites au glacier. Et puis petit à petit, moi j'ai senti une colère monter, parce que au fur et à mesure de mes visites, j'ai compris que, parce qu'en fait, on peut pas sortir du chemin, il y a des cordes, mais on peut passer très facilement sous les cordes et aller un peu explorer ce qui se passe derrière les bâches. Et je me suis rendu compte que de plus en plus de bâches qu'on voit pas du chemin, même si on en voit certaines quand même, étaient complètement commençaient à pourrir et que en fait, l'intérêt de l'exploitant n'était pas de ralentir la fonte du glacier, mais de ralentir la fonte de sa grotte qui lui
ramène des sous,
beaucoup,
hein.
Beaucoup d'argent. Ouais. Et puis, j'ai continué à réfléchir autour de ça et j'ai fini par accumuler un certain nombre de notes et par écrire un texte qui s'appelle « Là où ça se plie ». Et dans ce texte, je raconte comment j'ai appréhendé cette situation, les questions que je me suis posées, le fait que je me suis dit que c'était une situation dans laquelle on pouvait imaginer que le glacier pourrait avoir une personnalité juridique et enfin se défendre.
Les fameuses lois de la nature qui sont en vigueur aujourd'hui.
Tout à fait. Quelle forme pourrait avoir un travail artistique qui est né de cette indignation ? Forcément une forme de dénonciation. Et puis, voilà, j'ai fini ce texte. Alors, je m'étais donné, et je l'ai écrit dans le texte, une règle, c'est que dès que ce serait possible, ou alors c'est moi qui enclencherai les situations, je vais faire une suite d'éditions pour ne pas oublier cette réflexion, cette dénonciation, et que je continuerai à créer des éditions tant que les bâches ne seront pas enlevées. Et que la seule solution dans ma démarche, c'était d'arriver à faire enlever les bâches. Et puis et là, je suis sur ma dernière édition, enfin sur la dernière, mais peut-être pas la dernière, parce que les bâches sont toujours là.
Oui, c'est ça, c'était la question que je voulais vous poser. Donc pour l'instant, l'art est certes un enzyme qui peut faire avancer les choses, mais ce n'est pas non plus un levier de force.
Ça peut être un levier de force militant, mais ce n'est pas mon art, ça. Ce n'est pas ma forme habituelle. Et moi, j'aime bien la dimension militante, parce que j'ai des très bons souvenirs quand j'étais au MLF à Genève et dans des comités latino-américains aussi, très jeunes, où il y a eu cette dimension de la lutte et de ces communautés de réflexion et de vie qui sont tellement humaines et enfin stimulantes, enrichissantes. Mais dans l'art, je n'ai jamais pratiqué cette dimension. Donc là, mon problème, c'était de trouver une forme qui corresponde, qui s'approche un peu de ce que j'ai toujours fait artistiquement parlant. Alors j'ai continué ces éditions, et puis à un moment donné, je me suis dit, mais je ne peux pas continuer, je suis toute seule. Il faut que je forme une communauté de réflexion.
Faire boule de neige,
voilà.
Si je puis me dire.
Oui, c'est ça. Et je suis allée voir Laurette Cohen, avec qui j'aime beaucoup parler de ce que je fais, et puis qui souvent a de très bons conseils et de très bonnes critiques. Et je dis tout ça. Du coup, Yvette, qui était avec nous, dit tout d'un coup... Mais Yvette Yagi, oui, qui dit, mais en fait, il y a l'appel des glaciers en ce moment. Et puis, il y a toute cette énergie autour de la sauvegarde des glaciers. Il faudrait peut-être trouver quelque chose en relation avec les glaciers, pas le glacier. Et Laurette a proposé de demander à Bernard de venir se joindre.
Bernard Fébichère, l'ancien directeur du Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne.
À se joindre à notre réflexion. Et puis, très vite, on s'est mis d'accord pour que on allait organiser une exposition en lien avec les glaciers qui très vite s'est imposée. Et surtout de la part de Bernard, parce que c'est lui qui a conçu ce concept d'une exposition nationale dans toute la Suisse, en connivence et collaboration avec des institutions, des lieux, des espaces paysagers, que ce soit des musées avec des œuvres, des performances sur des sites, des lectures et des œuvres aussi mises en relation avec des œuvres classiques, moins classiques, mises en relation avec des œuvres contemporaines qui sont commandées pour l'occasion. Et puis voilà, petit à petit, le projet il a pris forme. Et ensuite, on a commencé à travailler tous ensemble. Moi, depuis le début, je m'occupe du site du glacier du Rhône, donc du projet glacier du Rhône, qui va avoir lieu à Gletsch, dans la commune de Gletsch, dans la salle à manger de l'hôtel Glacier du Rhône, à Gletsch. Je vais monter une exposition en collaboration avec Georges Descombes, Jürg Konzett et Jacques Demierre. Donc c'est une exposition qu'on a pensée ensemble. Elle aura lieu le 29 juin 2024 à l'hôtel Glacier du Rhône à Gletsch. C'est que, ok, les glaciers fondent. En fondant, les glaciers, ils mettent à jour des paysages que des scientifiques, depuis plusieurs années, nous révèlent comme étant des lieux extrêmement riches en biodiversité. Cette biodiversité qui a une capacité de capter le CO2, de réguler le système des eaux. Hein. Et on hérite du départ des glaciers, de ces paysages qui peuvent nous aider à lutter contre le réchauffement climatique. Mais en même temps, il est urgent de regarder cette vérité et de se confronter à cette réalité sans se plaindre, sans baisser les bras, parce que ces scientifiques, qu'est-ce qu'ils nous disent aussi, c'est que si aujourd'hui on agit et on change nos modes de vie pour éviter de produire des gaz à effet de serre, on peut encore sauver 40% des glaciers qui il nous reste très peu de temps pour le faire, mais il est encore temps.
On sent votre actualité qui est très activée justement par ces questions par ce projet autour des glaciers. Carmen Perrin, on arrive au bout de votre vie à peu près. C'est toujours difficile de trouver un mot de la fin. Est-ce que vous êtes une femme de fin?
Non. Non, ça, c'est pas possible.
C'est pourvu que ça dure.
Ah oui, plus longtemps ça dure, mieux c'est. Hein.
D'accord. Et pourtant, on va devoir se quitter tout de même après toute cette semaine. Merci beaucoup de m'avoir reçu ici dans votre atelier de la Praille, quartier de la Praille. On était bien dans cette lumière. Et on va se quitter avec une dernière musique.
Lerita Mitsuko, c'est comme ça.
Ah bah voilà, c'est comme ça. À la prochaine.
À la prochaine, merci.
Au revoir Carmen.
Merci. Au revoir Florence. Yeah.
Lerita Mitsuko, c'est comme ça, et c'est comme ça aussi que se termine cette série de La Vie à peu près de Carmen Perrin, qui a été proposée cette semaine par Florence Grivel. La Vie à peu près, c'est terminé. Merci à Sacha Unger et à Didier Rossa qui ont réalisé l'émission. Merci aussi à notre attachée de production, Audrey Zano. La Vie à peu près, c'est une proposition de Florence Grivel et Agnès Léveillé. Nous vous retrouvons du lundi au vendredi dès 13h30 sur Espace 2 et quand ça vous chante, sur Play RTS. Passez une très bonne après-midi à l'écoute d'Espace 2, il est 14h.